Mais aujourd'hui, des rôles, des fonctions de la loi de Dieu. Et je vous indique tout de suite que le titre de concours de la semaine prochaine sera l'organisme de la loi. Donc aujourd'hui, nous allons parler des rôles et fonctions de la loi de Dieu. Et puis, mercredi prochain, dans le début du cours, je vous ferai la première étape. Nous aurons donc l'organisme de la loi. Voilà, donc nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui es la sagesse même, veuille nous instruire par ta sagesse et communiquer à notre esprit quelque chose de cette sagesse éternelle. Amen. Dans le plus classique et le plus répandu des catéchismes réformés, je veux parler du catéchisme de Heidelberg, qui a été publié en 1563, il est question de deux rôles, de deux fonctions de la loi de Dieu. La première fois, tout au début, dans la partie concernant la misère de l'homme, il est simplement dit, question 3, par quoi connais-tu ta misère ? Réponse, par la loi de Dieu. Donc, selon le catéchisme de Heidelberg, et selon, je dirais, l'ensemble des théologiens de la Réforme, l'un des rôles, l'une des fonctions de la loi de Dieu, c'est d'apprendre à l'homme qu'il est pécheur, d'apprendre à l'homme quelle est sa misère. Bon, et puis la seconde fonction nous est indiquée dans le même catéchisme à la question 93. Donc, à la question 91, ça c'est dans la troisième partie de la reconnaissance. Quelles sont les œuvres bonnes que doit accomplir le chrétien? Quelles sont les œuvres bonnes que doit accomplir le chrétien? Et alors la réponse c'est ce sont seulement celles qui procèdent d'une vraie foi et sont accomplis selon la loi et pour la gloire de Dieu. Donc, deux rôles, deux fonctions sont attribués à la loi de Dieu par le catéchisme de Heidelberg, je dirais par l'ensemble des théologiens de la Réforme, quel qu'il soit. C'est un, de faire connaître à l'homme sa misère, et deux, d'indiquer aux chrétiens quel est le chemin de sa reconnaissance, comment il peut accomplir des œuvres qui plaisent à Dieu. Ces œuvres doivent, je le répète, procéder d'une vraie foi et être accomplies selon la loi et pour la gloire de Dieu. Si nous passons du catéchisme de Heidelberg, qui est de 1563, c'est-à-dire une année avant la mort de Calvin, si nous passons du catéchisme d'Heidelberg à Calvin, nous avons dans l'institution chrétienne non pas l'indication de deux rôles, de deux fonctions de la loi de Dieu, mais de trois. Ce texte, dont l'ensemble texte se trouve dans le second livre de l'institution chrétienne, au chapitre 7, à partir du paragraphe 6. Pour l'institution chrétienne, la règle veut, en général, on indique par un gros chiffre romain le livre de l'institution. instruction, c'est-à-dire qu'il y a quatre types d'instruction, c'est 1, 2, 3, 4. Ensuite, on indique la partie de ce livre en mettant en chiffre romain en petite capitale. Et puis, en troisième lieu, on indique le paragraphe. Alors, donc là, j'ai dit second livre de l'Institution chrétienne, chapitre 7, paragraphe 6 et suivant. Alors là, il y a trois usages de la loi de Dieu. Le premier usage, c'est de faire connaître à l'homme sa misère, nous l'avons vu. Le deuxième usage pour Calvin, c'est de restreindre les effets du péché. Et le troisième usage, c'est d'indiquer, au fond, ce que doit être la vie chrétienne. Alors, donc, vous voyez que aux deux usages indiqués par le catéchisme de Heidelberg, Calvin en ajoute un, et c'est ainsi que, dans la théologie de la réforme, qu'elle soit réformée ou luthérienne, dans la théologie classique de la réforme, il est toujours question de ce que les théologiens de l'époque, et vous savez, écrivaient tous en latin, vont appeler le triplex usus legis, le triple usage de la loi, qui est ici là, et quelquefois, au lieu de usus, au lieu de dire le triple usage de la loi, on dit triplex munus legis, c'est-à-dire les trois fonctions de la loi. Enfin, c'est la même chose, et on a désigné évidemment le premier usage de la loi, le second usage de la loi, le troisième usage de la loi, et on a indiqué ce qu'était le premier usage de la loi, j'y reviendrai tout à l'heure, usus civilis ou politicus, je pense d'ailleurs qu'il vaut mieux employer, je dirais pourquoi, le mot politicus. Là, on a parlé de l'usus helléniticus ou pédagogicus. Vous avez voulu employer Hellenicus, je vous dirai pourquoi. Et enfin, là, on parle de l'usus normativus ou didacticus. Voilà. Alors ça, si vous voulez, si vous lisez les vieux théologiens de la Réforme du XVIe, XVIIe siècle, qu'ils soient réformés ou qu'ils soient luthériens, vous entendrez parler, vous les verrez parler, vous écouterez parler de ce triplex ou sous le triplex munus legis, hein, et avec des noms qui peuvent varier, ou bien on parle pour le premier usage de la loi de l'usage civil ou de l'usage politique. Là, on parle. Alors là, le mot helléniticus, je vous ai indiqué ici, vient du verbe grec helenkaim, hein, qui signifie convaincre. Convaincre. Généralement, d'ailleurs, il est employé dans le Nouveau Testament avec le sens de convaincre de péché. Je vous donne quelques exemples. Dans Jean 8, 46, dans Jean 8, 46, dans Jean 16, 8, et dans l'Épître de Jacques, chapitre 2, verset 9. Eh bien, si vous regardez ces trois textes, donc je répète Jean 8, 46, Jean 16, 2 et Jacques 2, 9, vous verrez qu'il s'agit des trois fois de convaincre de péché. Donc, l'usage de la loi, le second usage de la loi, c'est usus helléniticus, a pour but de convaincre l'homme de péché. Et c'est pour ça que je préfère employer ce mot, encore que dire pédagogicus, c'est pas faux, puisque la loi, en convaincant l'homme de péché, est comme un pédagogue pour conduire à Christ et pour pousser l'homme pécheur à recourir à Jésus-Christ pour sa justification. Donc là, vous voyez, on peut dire que là, c'est par rapport à la justice et au jugement de Dieu, justice et jugement de Dieu. Hein? Alors au fond, l'objet de cet usage de la loi, de ce second usage de la loi, c'est de convaincre l'homme de péché devant la justice et le jugement de Dieu. Et donc, ça porte l'homme, hein, c'est là le sens de pédagogue, c'est un pédagogue pour conduire l'homme à trouver sa justification en Jésus. Hein? Tandis que le troisième usage de la loi, c'est la règle pour la sanctification de l'homme pécheur. Et là, c'est toujours en rapport avec la sanctification de l'homme pécheur. Alors, nous allons maintenant un peu creuser tout cela, et je vais commencer en prenant donc l'institution chrétienne avec la référence que je vous ai donnée au livre 2 de l'institution et au chapitre 7 de l'institution. Et là, tout un ensemble à partir du paragraphe 6 dans lequel Calvin parle successivement des trois usages de la loi. Mais curieusement, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, Calvin dans l'institution appelle premier usage de la loi ce que ensuite généralement on appellera le troisième usage. Il appelle second usage celui-là, il n'y a que pour le l'usus legis textus pour le troisième usage que Calvin juge. Bon, enfin, ça n'a pas bien d'importance, étant donné, et j'insiste beaucoup là-dessus, que quand on parle des trois usages de la loi, on ne veut aucunement partager la loi en trois parties. Au fond, la loi, en confrontant l'homme, en s'adressant à l'homme, a ce triple usage, a cette triple fonction, ensemble. C'est-à-dire que il ne faut pas chercher telle page ou telle phrase de la loi ne concernerait qu'un des trois usages. Quand Dieu nous apporte sa loi, les trois usages entrent en action. Les trois fonctions de la loi agissent. Donc oui, c'est important de ne pas là partager, séparer les trois usages. Simplement, nous disons, la loi agit d'une façon critique. Personnellement, je préfère dire le triple usage de la loi ou la triple fonction de la loi plutôt que de dire les trois fonctions ou les trois usages. Mais en fait, comme c'est bon quand même de faire des distinctions, disons que nous distinguons sans séparer. Nous distinguons sans séparer. Au fond, il y a un triple usage de la loi. C'est un singulier, triple usage de la loi. Mais on distingue, pour faciliter l'intelligence de la chose, pour en faciliter la lecture, hein, on va distinguer usage 1, usage 2, usage 3. Mais les trois usages fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que, si vous voulez, nous allons voir la portée de chaque usage dans la vie juive. Alors, on peut employer à ce sujet des images. Des images. Alors, si vous voulez, je vais faire un petit prêt. Alors là, si on emploie les images. Là, ce qui va jouer, c'est l'idée d'un garde-fou. Ou, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, l'idée d'une bride. Oui, par exemple, quand on tient un chien en laisse, Elle a la bride, c'est la laisse. Ou bien, vous savez, quand on conduit à pied un cheval, on le tient par la bride. Et donc, vous voyez en quel sens on emploie le mot bride. Hein. Dans le second usage, il est question d'un miroir. D'un miroir. Ou bien, nous verrons tout à l'heure, là, la bride, donc, ça vient en second. Là, en second, on peut parler de la baguette. Pourquoi la baguette? Je reviendrai là-dessus. Mais c'est en second. Et puis alors là, c'est une règle. Ou bien, on pourrait dire, dans un langage contemporain, le code de la route. Bon, alors là, ce sont simplement des mots, le mot garde-fou, le mot miroir, le mot règle, c'est pour concrétiser tel usage de la loi. La loi agit comme un garde-fou. Elle est un garde-fou. La loi agit comme un miroir. Elle est un miroir. Là, elle agit comme une règle. Elle est une règle. Et c'est bon quand même d'avoir une image parce que ça nous permet non seulement d'illustrer la chose, mais ça nous permet surtout de voir plus concrètement la chose. Alors nous allons prendre ces trois usages successifs. Je n'énumère pas toute la bibliographie qu'on pouvait consulter. Je vous ai indiqué l'Institution chrétienne, un livre qui est intéressant aussi parce que c'est un ouvrage luthérien, c'est la Formule de Concorde. La Formule de Concorde, vous savez, c'est un des livres symboliques du luthéranisme. À côté de la Formule de Concorde, il y a aussi la Confession de Westminster. C'est pour ça que quelquefois on désigne l'Église luthérienne comme Église de la Confession de Westminster. Hein, c'est un peu comme si on désignait l'Église réformée de France comme l'Église de la Confession de la Rochelle. Hein, c'est un peu bizarre d'appeler une Église Église de la Confession de Westminster. C'est pour ça que généralement les luthériens disent plutôt Église évangélique luthérienne. Mais, si vous voulez, la Confession de foi d'Augsbourg est un des grands livres symboliques de la Confession de l'Église luthérienne. Le second livre, c'est la Formule de Concorde, dont je vais citer quelques passages tout à l'heure, et puis le troisième groupe, c'est l'apologie de la Confession de Westminster, qui est un ouvrage de Mélenchon, que certains luthériens ont discuté, mais enfin, en général, les trois ouvrages symboliques de l'Église luthérienne, ce sont ces trois. Je parlerai tout à l'heure, je reviendrai tout à l'heure sur cette question des luthériens. Mais alors maintenant, nous allons donc voir le premier usage de la loi. Premier usage. Oui.
Pouvez-vous répéter le livre de Mélenchon ?
L'apologie de la Confession. Apologie. Alors évidemment, vous avez, là je viens de citer ça, on peut citer des. Beaucoup d'ouvrages qui ont développé ça. Par exemple, en français, tout à l'heure j'en parlais à un étudiant en disant mon regret que notre bibliothèque soit en Californie, mais il y a un théologien important au sujet de la loi, c'est Pierre Viret. Pierre Viret, qui est parmi les théologiens de la Suisse, de la Suisse romande, c'est le seul, parce que je dis Suisse romande parce qu'ils ont écrit des ouvrages en français, c'est le seul qui soit vraiment suisse, puisque vous savez que Farel et Calvin sont tous les deux français. Et cependant, Calvin a développé son œuvre à Genève, et Farel a développé aussi son œuvre en Suisse. Farel était d'origine dauphinoise et Calvin était de Noyon, ils sont d'origine picarde. Mais disons que les trois grands théologiens en Suisse sont en réalité un Suisse, Pierre Viret, je parle de la Suisse romande, et deux Français. Alors Pierre Viret a particulièrement lu l'Écriture sainte comme loi, et ça, en la rapportant toujours bien sûr aussi à l'Évangile, puisque vous savez, je vous l'ai dit, il ne faut pas séparer loi et Évangile, c'est comme l'avers et le revers d'une pièce de monnaie, d'une médaille. Mais Pierre Viret a creusé cette question de la loi, et donc je vous recommande la lecture de Pierre Viret. L'embêtant, c'est que Viret n'a pas été, à ma connaissance, réédité. Et alors c'est un peu ennuyé, parce que c'est un très grand théologien de langue française. Il était originaire de d'Orbe, Suisse, qui fait partie du canton de Vaud.
Oui, je crois que monsieur, vous deviez étendre son mémoire sur Viret.
Ah oui?
Oui. La discipline.
Comment?
Sur la discipline dans l'église.
Oui, voilà,
chez Pierre Viret.
Voilà. Alors, c'est difficile de voir Viret. Alors, j'ai indiqué, vous avez une étude sur Pierre Viret remarquable, qui est ancienne ici, qui est d'un certain Barnot. Et vous avez aussi l'étude d'un catholique plus récente qui s'appelle Barraud, B-A-B-A-U-D, et vous pouvez quand même, faute de pouvoir recourir aux œuvres de Viret, moi j'ai eu la chance de pouvoir étudier Viret dans des photocopies de son œuvre, mais c'est dommage. On a republié souvent l'institution de Calvin, on n'a jamais republié Viret. Et c'est dommage, parce que je crois que c'est un théologien important, beaucoup plus important qu'on ne le pense. Alors, la loi de Dieu est un garde-fou. Vous savez ce que c'est un garde-fou? C'est un parapet, une barrière, qu'on met pour délimiter quelque chose. Et en tout cas, pour pas que l'on se casse la figure et qu'on est un peu protégé par ça. Eh bien, Dieu se sert de sa loi pour protéger l'homme contre lui-même et pour éviter les effets intensif pour limiter les effets intensifs du péché. J'ai encore lu tout récemment un ouvrage justement du philosophe thomiste français Georges Maritain, un ouvrage sur la morale en général. Et j'ai été frappé de voir que il n'a absolument pas compris Luther. Il cite Luther à plusieurs reprises. Non, il ne cite pas Luther. Il met en avant le nom de Luther à plusieurs reprises, et en particulier, il attaque l'idée luthérienne de la corruption totale. La corruption totale. Et Martin a l'air de penser que quand les réformateurs, en particulier Luther, parle de la corruption totale de l'homme, ils veulent dire que l'homme, au fond, n'est plus que pourriture, que l'homme, au fond, n'a même plus de visage humain, n'est plus un homme. Et ça vient de ce que Martin, qui a entendu parler de la corruption totale chez les réformateurs, sans avoir sans doute jamais lu leurs ouvrages, eh bien, à l'idée que corruption totale, ça veut dire le maximum de corruption possible. Or, pas du tout. Quand les réformateurs parlent de corruption totale, ils veulent dire que la corruption du péché atteint l'homme dans toutes ses facultés, et donc que la corruption extensive du péché est total. Ça veut dire que ça s'étend à tout. Tandis que, je le dis en passant, je l'ai déjà dit, à mon âge en rabâche, c'est que on a l'idée chez les scolastiques, en tout cas chez Thomas d'Aquin, mais pas seulement chez Thomas d'Aquin, qu'au fond, l'homme est corrompu, mais par sa raison. La raison humaine, selon les scolastiques, n'aurait pas été atteinte par la chute. Autrement dit, il n'y aurait pas de corruption de l'homme. Il n'y a pas de corruption de l'homme, de la raison. Il n'y aurait pas de corruption de la raison. Alors ça, c'est l'idée des scolastiques. Or, contre les scolastiques, les réformateurs affirment, mais c'est l'homme tout entier qui est corrompu. Pas seulement ses sentiments, mais aussi sa raison. Il est totalement corrompu dans ce sens-là. Mais jamais les réformateurs n'ont pensé que la corruption totale de l'homme signifie une corruption totale au sens intensif du mot. Parce que dès la chute, Dieu a limité les effets intensifs du péché. Alors il faut faire bien attention. Quand on parle, quand les réformateurs parlent de corruption totale, ils ne veulent pas dire que l'homme est pourri entièrement. Parce que si l'homme était pourri entièrement, il ne serait plus un homme. Et l'homme reste un homme. L'homme reste un homme. Parce que Dieu, dès la chute, met des limites à l'intensité du péché. Non pas à son caractère extensif. Le péché s'étend autour de l'homme. À tous les aspects de l'homme. Mais Dieu limite les effets intensifs justement pour empêcher que l'homme ne sombre dans la pourriture ou ne sombre dans le néant. L'homme reste un homme. Pourquoi ? Non pas parce que ce serait grâce à lui-même qui ne serait pas vraiment pécheur, mais grâce à Dieu qui met des bornes, qui met des limites, qui met un garde-fou à cette intensité du péché. Et ce qui fait que l'histoire, après la chute, a pu continuer. L'histoire peut continuer parce que Dieu limite, a limité les effets intensifs du péché. Si Dieu ne limitait pas les effets intensifs du péché, eh bien, les hommes auraient sombré dans la folie, dans l'animalité. Et je dirais que, à la limite, si vous voulez, on voit bien, il y a des hommes qui ont fini par sombrer dans la folie. Et même, il y en a qui ont sombré dans l'animalité. Mais ils sont très rares. Pourquoi ? Parce que, normalement, la chute aurait dû provoquer cela. Mais Dieu a limité les effets intensifs du péché pour que l'homme reste homme en dépit du péché, et pour que l'histoire de l'humanité puisse se poursuivre en dépit du péché. Donc, la loi de Dieu va agir pour limiter les effets intensifs du péché. Et elle va agir, je dirais, de deux façons. D'une part, parce que Dieu va laisser dans l'homme un certain sens du bien et du mal. Alors nous avons un texte qui est très éclairant à ce sujet, vous le connaissez par cœur, je pense, c'est dans la lettre aux Romains. Au chapitre 2, les versets 12 et suivants. Vous connaissez sans doute ce passage dans lequel l'apôtre Paul dit qu'il y a une œuvre de la loi qui est écrite dans les cœurs, le cœur des hommes. Dieu maintient une certaine action de sa loi dans le cœur des hommes. Donc, bien entendu, quand Paul parle, il veille aux mots qu'il emploie. Et dans les écrits paulinien, vous avez deux affirmations différentes. En ce qui concerne tous les hommes, l'œuvre de la loi est écrite, il y a un petit bout de la loi qui est écrit dans le cœur de tous les hommes. Autrement dit, il y a une œuvre de la loi de Dieu, il ne dit pas que la loi de Dieu est inscrite dans le cœur des hommes. Il dit que l'œuvre de la loi s'inscrit dans le cœur de tous les hommes. Tandis que chez les croyants, au fur et à mesure qu'ils croissent dans la foi, qu'ils grandissent dans la foi, c'est la loi de Dieu qui est écrite dans les cœurs. Mais donc vous voyez, il y a une petite notation différente. Quelque chose de la loi de Dieu s'inscrit, est inscrit par Dieu dans le cœur de tous les hommes. Dieu veille à ce que le péché n'ait pas comme effet intensif le fait de supprimer un certain sens du bien et du mal. Il reste en tout homme un certain sens du bien et du mal. On peut prendre le plus grand gredin des gredins, le plus salopard des salopards, il y a quelque chose du bien et du mal qui subsiste dans son cœur. Il a un sens du bien et du mal. Remarquez, ça ne justifie aucunement l'homme, au contraire, ça le rend pleinement inexcusable. Puisque Dieu a maintenu en lui, malgré le péché, un certain sens du bien et du mal. Ah oui, Paul continue en disant, quand les nations, ceux des nations, qui n'ont pas la loi de Moïse, font naturellement certaines choses de cette loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage, ils ont dans leur conscience un certain sens du bien et du mal, et leur raisonnement les accuse ou les défend tour à tour. Donc, c'est un texte très important de Paul, à savoir que Dieu limite les effets intensifs du péché, la corruption intensive du péché, en maintenant dans le cœur de l'homme une action de sa loi, un certain sens du bien et du mal, qui peut être erroné d'ailleurs. Autrement dit, l'homme peut appeler bien ce qui est mal et mal ce qui est bien, mais enfin, ça ne fait rien, il a un certain sens du bien et du mal qui reste en lui. Et le pire des hommes, a un certain sens du bien et du mal en lui. Même s'il invertit les choses et appelle bien le mal et mal le bien. Il a un sens du bien. Et il a quelque chose de l'œuvre de la loi, quelque chose de l'action de la loi dans son cœur. Donc Dieu, par sa loi, permet la vie sur la terre malgré le péché. Et c'est ce qui permet la société humaine. Alors c'est là où vous retrouvez le mot. Pourquoi on appelle cette action de la loi, cette fonction de la loi, cet usage de la loi, le jeu civilis ou politicus, il faut prendre le mot politicus au grand sens du mot, pas au sens moderne. Tout homme est citoyen de ce monde où Dieu l'a placé. Tout homme est citoyen de la terre, en ce sens que tout homme est citoyen de l'humanité. Et polis, c'est la cité humaine. Donc, pour maintenir la possibilité de l'histoire, et pour qu'il y ait, malgré le péché, une certaine société humaine, en dépit du péché, pour qu'il y ait une cité humaine sur la terre, que les hommes soient des hommes, que l'humanité soit une humanité, eh bien, Dieu emploie ce premier moyen que j'ai dit, à savoir, il laisse dans le cœur de l'homme un certain sens du bien et du mal, et il agit. Mais la chose est développée encore par le peuple de Dieu. Par le peuple de Dieu. C'est-à-dire par Israël, dans l'Ancien Testament, et encore par Israël aujourd'hui, dans la mesure où Israël utilise la loi, les prophètes et les écrits, utilise la Bible, et aussi pour l'Église. Prenez un exemple. À l'heure actuelle, il y a toutes sortes de controverses au sujet de l'avortement. Eh bien, les hommes ne savent pas finalement qu'est-ce qui décide si l'avortement est bien ou est mal. C'est la loi du pays, non pas la loi, mais c'est la loi du pays. Alors il y a des pays dans lesquels la loi est contre l'avortement. D'ailleurs, c'était la situation, par exemple, en France, jusque assez récemment. Et puis il y a des lois, au contraire, qui sont tout à fait libérales en ce qui concerne l'avortement. On peut pratiquement avorter comme ça, sans aucune obligation. Tandis qu'en France, il y a quand même certaines restrictions qu'on peut avorter, qu'il faut compter certain nombre de mois ou de semaines de grossesse, etc. Enfin, il y a, bon. Mais c'est l'État qui dit l'avortement est bien, n'est pas poursuivi par les tribunaux, est reconnu comme étant légal, ou bien le contraire dit non, non, l'avortement est illégal. Bon. Mais que doit faire l'Église? Que devrait faire? C'est pas stabler sur. C'est dire, selon la loi de Dieu, l'avortement est un crime. Voilà. Alors, bien sûr, on pourrait. Vous voyez, c'est là où il faut faire très attention au sens du mot usus politicus. Ça veut dire que Dieu, quand même, par le moyen de l'Église, quelquefois, rappelle sa loi aux hommes. Rappelle sa loi aux hommes. Et leur disent, non, l'avortement est un crime. Selon le droit de Dieu, l'avortement est un crime. Bon, alors ça, autre chose, savoir ce que les hommes, et en fait particulier ce que les citoyens d'un pays qui votent, et en particulier ce que l'État d'un pays va décider. Mais, si vous voulez, il reste ça. Alors là, vous avez le fameux texte de Jésus au début du sermon sur la montagne, au chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, dans lequel Jésus compare l'Église. Il fait deux comparaisons. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais Artoum, attention, hein, attention, il faut bien faire attention, parce que le sel peut perdre sa saveur. Enfin, ça y est, il sale plus. C'est du sel qui ne peut plus saler puisqu'il a perdu sa saveur. Ou bien la lumière, eh bien on veut l'avoir fourrée d'une boisson. Qu'elle aurait n'éclaire plus la maison. Parce que Jésus dit que son Église, c'est le sel de la terre quand elle garde sa saveur, et c'est la lumière du monde quand au lieu d'être mise sous le boisseau, elle est placée sur un chandelier pour éclairer toute la maison. Alors, ça a joué, ça. Même en Israël, une chose à laquelle on ne fait pas assez attention. Tout le temps, on parle des juifs, comme les gens croyants au temps de l'Ancienne Alliance. Mais non, il y a toujours eu des gens des nations. Des gens des nations qu'on a appelés, par exemple, les craignants Dieu, ou qu'on a appelés les prosélytes. C'était des gens, quelquefois, des Grecs, de l'Empire romain, qui n'étaient pas juifs. Qui n'étaient pas juifs. Il y en a qui sont venus, mais souvent ils n'étaient pas juifs. Mais ils allaient au temple, dans la partie qui leur était ouverte. Il y avait dans le temple une partie qui était ouverte aux prosélytes, aux gens des nations. Et puis dans certaines villes, comme à Alexandrie, par exemple, à Alexandrie, bien avant la venue de Jésus-Christ, au 3e siècle avant Jésus-Christ, on a traduit des rabbins, on traduit la Bible hébraïque en grec, et on appelait ça les sept temples, parce que c'était pour les nations. C'était pour les sept temples, nations, pour les nations, pour les... Voilà. Et alors, il y a eu une action de la loi de Dieu qu'on néglige très souvent. Ce serait une étude à faire, c'est du savoir quelque chose. Ce serait vraiment, ça pourrait même une thèse de doctorat, ça. Déjà intéressant d'en publier quelque chose comme texte, comme travail de maîtrise, c'est de voir au fond l'influence qu'a eue la Bible juive, ou la prédication juive, et la Bible chrétienne, la prédication juive, sur les autres. Sur les autres. Et on serait étonné de voir, par exemple, que Israël a eu un rôle éclairant pour les civilisations d'alentour. Et c'est très difficile à mesurer. C'est très difficile à mesurer. Mais c'est une piste intéressante. Comment est-ce que la loi de Dieu, alors non plus parce que Dieu, dans le cœur, a continué l'action de sa loi et maintenu un sens du bien et du mal dans le cœur de l'homme, mais l'autre moyen, second moyen, ça a été la portée de la révélation de Dieu qui a été diffusé par Israël ou qui a été diffusé par l'Église. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un des grands drames de notre époque. Vous savez, aujourd'hui, là, on essaye de voir comment on pourrait remédier par des actes politiques, par des lois, au problème terrible de l'immoralité. En Occident, en particulier dans un pays comme la France. Mais non, je dirais, il faudrait que l'Église soit vraiment celle de la terre et lumière du monde, et que l'Église fasse connaître la loi de Dieu. Parce que, sans ça, qu'est-ce qu'il y a? Au fond, vous savez ce qu'on appelle la cité acquise, ce qui est gardé de moralité en Occident, parce qu'il y a encore quelque chose qui est gardé dans la moralité en Occident, ça vient de la vitesse acquise qu'a apportée la foi chrétienne à l'Occident. Alors, la foi chrétienne n'a plus son rôle moteur, c'est pour ça que je parle de vitesse acquise. Qu'est-ce que c'est que la vitesse acquise? Vous mettez un mobile en mouvement, il y a une force qui l'anime au départ, qui le maintient, et puis après, vous pouvez stopper le moteur, et vous continuez à rouler. C'est ce qu'on appelle rouler en roue libre. Vous pouvez continuer à rouler parce qu'il y a une vitesse acquise. Seulement attention, la vitesse acquise, elle ne dure pas longtemps. Elle peut durer assez longtemps, mais elle ne peut pas durer longtemps quand même. Justement parce que c'est plus animé. Quand la foi n'anime plus la morale, quand l'Évangile et le Christ n'animent plus la loi de Dieu, eh bien, les gens peuvent encore avoir un certain sens de la loi de Dieu qui est développée grâce à la Bible. Au fond, les athées aujourd'hui, ils continuent, sans y prendre garde, à vivre sur la vitesse acquise par la loi de Dieu dans les pays occidentaux et dans d'autres pays qui ont été gagnés. Mais ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Et c'est pour ça que c'est normal que la situation éthique du monde aille de mal en pis, aille de plus en plus mal, parce que l'action de l'Église, la foi chrétienne ayant cessé, petit à petit, la morale qui marchait encore par la vitesse acquise, peu à peu s'arrête. Et je n'ose pas trop penser à ce qui va arriver dans 10 ou dans 20 ou dans 50 ans. Parce que déjà, rien que dans la durée de ma propre vie, j'ai vu des choses incroyables. Et ça, c'est le grand problème d'aujourd'hui. Et alors, il y a une question morale, et donc une question politique, au sens biblique du mot, de la police, de la cité des hommes. Il y a un ensemble politique de la cité des hommes qui va en empirant. Et alors, on veut croire que sans recours à la foi, et petit à petit la vitesse acquise de la morale, s'arrêtant, on va pouvoir arranger ça, rafistoler ça. Alors tous les partis politiques, aujourd'hui en France, à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite, au centre, vous pouvez, tout le monde est en guerre. On essaye de trouver un truc pour arranger les affaires. Mais les affaires ne peuvent pas s'arranger. On peut un petit peu retarder les affaires, on peut. Vous savez, quand il y a. Vous avez peut-être vu ça quelquefois, quand on fait de la roue libre en bicyclette, on arrive à un moment où ça va s'arrêter. On donne des petits coups comme ça, alors on arrive encore à. Voilà. Alors on peut évidemment arranger encore la vitesse acquise un tout petit peu, mais ça va s'arrêter. Voilà le problème. C'est un problème qui est un problème de civilisation. Au sens de l'union civiliste. C'est un problème politique au sens de la cité des hommes, mais qui ne peut pas se régler par des trucs politiciens ou politicaux, qui soient de gauche ou de droite. Et bien, s'il n'y a pas un renouveau spirituel, s'il n'y a pas retour à Dieu, s'il n'y a pas conversion à Dieu, s'il n'y a pas ce réveil de la foi, l'humanité dans son ensemble court à la catastrophe. Dieu maintient quand même encore par l'usus legis primus, il maintient encore quelque chose, mais je dirais la situation est grave. Voilà pour le premier usage de la foi. Second usage de la foi. Le miroir. Alors là, vous avez le texte du début de la lettre de Jacques. Attention, dit Jacques, quand tu t'es regardé dans le miroir de la parole de Dieu, n'oublie pas ton visage, n'oublie pas que tu es un pécheur. Et au fond, la loi de Dieu, là, agit comme un miroir. Oui, il nous arrive à tous de nous regarder dans un miroir. Enfin, tous les matins, je me regarde dans un miroir, ne serait-ce que pour me raser. Alors là, on voit la tête qu'on a, évidemment. On voit sa tête. Alors, petit à petit, on dit là. Bon, on voit les taches de la vieillesse qui apparaissent, les mais attention, le miroir quand même nous montre notre vrai visage. Eh bien, la loi de Dieu, le second usage de la loi de Dieu, c'est de nous montrer notre vrai visage. Et puis, il ne faut pas l'oublier une fois qu'on l'a vu. Comme dit Jacques, hein, une fois qu'on s'est regardé, il ne faut pas oublier comment on est. Alors là, agis comme miroir. Et alors, c'est pour ça que je vous disais le rôle hélénistique de cette loi de Dieu, c'est que la loi de Dieu nous convainc de pécher. Convainc de pécher. Et c'est un rôle très important parce que l'homme peut être amené soit à s'illusionner encore plus sur lui-même, soit à se jeter vers Dieu pour trouver en sa grâce la réconciliation, le pardon et le salut. C'est pour ça qu'il y a une différence entre le premier et le second usage de la loi. Dans le premier usage de la loi, je dirais, on est gardé des effets intensifs du péché. Les effets intensifs du péché sont inévitables. Mais on n'y peut pas grand-chose, comme je viens de vous le dire il y a un instant. Tandis que le second usage de la loi, ou bien en se voyant comme on est, on va s'illusionner en se durcissant pour ne pas se voir comme on est, ou bien se voyant comme on est, et au fond épouvanté de se voir comme ça, on va se dire, ben, c'est pas du côté de la justification par moi-même que je vais arranger les affaires. Si je suis ce pécheur que la loi de Dieu nous montre, à moins de m'endurcir davantage, je n'ai qu'une chose à faire, c'est de me jeter, de me précipiter vers Dieu et vers la grâce de Dieu et vers le pardon qui se trouve en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, en même temps qu'un miroir, la loi de Dieu, dans son second usage, va agir comme d'une baguette. Alors là, je viens au mot pédagogue. Vous savez que le mot pédagogue en français a pris d'un sens très différent. Il y a des mots comme ça, qui prennent des sens différents, qui changent de sens. Moi, je me rappelle toujours, j'avais été très étonné quand un jour, le grand-père de ma femme, qui était un beau vieillard à barbe blanche, quand il voyait passer une femme qui était jolie ou autre, une jeune fille, tout ça, et il nous avait parlé un jour d'une compagne de classe de ma femme, comme ça, oh la belle garce. Parce que il vivait un moment où garce, c'était tout simplement le féminin de gars. On disait un beau gars pour un garçon, et on disait une belle garce pour une fille. Ah, c'était comme ça. Tandis que le mot garce, maintenant, c'est tout à fait péjoratif. Je ne vois pas que pour féliciter une jeune fille, vous alliez lui dire c'est une belle garce. Alors, les mots changent. Et alors, le mot pédagogue, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'un pédagogue? C'est un enseignant. C'est un pédagogue. Tandis que, primitivement, et en particulier dans le latin, et au XVIe siècle, on prenait le mot pédagogicus dans son sens ancien, le pédagogue n'enseignait rien du tout. C'était le bonhomme qui était chargé de ramasser les enfants dans les familles, les petits-enfants, pour les conduire à l'école. Et il avait une petite baguette à la main, et puis il y allait tout ça. Vous savez, la baguette, c'est très curieux, les usages de la baguette. Par exemple, vous savez que Calvin, à Genève, donnait des prédications qui duraient facilement 2h30, 3h. Ça durait, les prédications. Et alors, il y avait, dans le temple, dans la cathédrale, Saint-Jean à Genève, de Saint-Pierre à Genève, il y avait comme ça des surveillants qui se promenaient dans les rangs et ils avaient une petite baguette. Bon, c'était pas, ils ne donnaient pas des coups de bâton. Et quand quelqu'un s'endormait, parce qu'évidemment, comme le sermon durait très longtemps, et il fallait veiller à ce que les gens écoutent. Vous me direz, c'était quand même un peu de la contrainte. Je vois mal dans les temples aujourd'hui se promener des surveillants avec des baguettes pour réveiller les gens qui s'endorment. Tout ça. Alors, le pédagogue, c'est ça. C'est pas du tout quelqu'un qui nous instruit. Hein. C'est pas dans ce sens. Mais c'est dans le sens de... C'est quelqu'un qui va nous réveiller pour nous conduire à Christ. Allez-y. Et alors, là, il s'agit de la justification de l'homme. L'homme, se voyant au miroir de la loi de Dieu, et recevant des petits coups de baguette de la loi de Dieu qui l'éveillent, hein, qui brusquement le font réfléchir. Et oui, c'est important ça. Quelquefois, la loi de Dieu, la parole de Dieu en tant que loi, nous fait réfléchir. Elle nous donne à penser. Comment dire ? Elle donne à penser. Et alors, si l'homme est éveillé, il y a déjà, dans cette action de la loi comme miroir, ou comme paquet, il y a déjà quelque chose comme un début de salut. Le salut des hommes commence souvent par la loi comme miroir ou comme baguette. Tout à coup, quelqu'un qui n'a jamais pensé, tout à coup, en écoutant la parole de Dieu, c'est qu'il se met à réfléchir sur lui. Mais c'est vrai, je suis bien un homme, comme le dit l'Écriture, un pécheur. Oh, je suis bien quelqu'un qui avait en effet besoin d'être réveillé de son sommeil. J'étais en train de me perdre sans faire attention. Et tout à coup, maintenant, je me rends compte que c'est vrai. Je suis sur un chemin de perdition. Vous savez que Saint Augustin, c'était au 5e siècle de notre ère, Saint Augustin, qui était le fils de la chrétienne Monique, et puis d'un païen, Saint Augustin était resté très longtemps païen. Son rêve, c'était de devenir un rhéteur. Les rhéteurs, c'était des drôles de grands hommes, mais que c'était des gens qui étaient chargés, ils étaient payés pour faire des discours, et selon ce qu'on leur disait, de dire, voilà, vous allez faire un discours pour me démontrer ça, ou bien un autre pour leur dire, vous allez me faire maintenant un discours pour démontrer juste le contraire. Et le rhéteur, c'était le type qui était assez habile, dans sa façon de parler, pour pouvoir justement faire des discours dans tous les sens contraires. Alors ça existait à l'époque, de nos jours, il n'y a plus de rhéteurs dans ce sens-là, mais au 4e siècle, dans l'Empire romain, il existait encore des rhéteurs, et il y avait des écoles de rhétorique où vous apprenez à faire des discours pour démontrer ce qui. Ça fait penser un petit peu aux écrivains publics, comme il y en a encore. Alors ça c'est curieux aussi, les écrivains publics. Il n'y en avait plus dans mon jeune temps. Et aujourd'hui, comme l'analphabétisme va croissant, et qu'il y a un nombre de plus en plus grand, par exemple, d'engagés, de gens qui doivent faire le service militaire, vous savez, sur la famille, il y a des tas d'enfants qui entrent en classe de 6e sans savoir lire. Ou bien ils peuvent lire vraiment en anonymat. Il y a un alphabétisme qui s'est développé. Beaucoup plus de gens pouvaient non seulement lire, mais faire des calculs, parce que l'école primaire en France, c'était vraiment, on apprenait, on ne faisait pas de faute d'orthographe en ayant son certificat d'études, on ne faisait pas non plus d'erreurs dans les enfants. Avec aujourd'hui, c'est... Alors, les écrivains publics, il y en a, moi je suis frappé, en me promenant dans certaines villes, et je ne sais pas encore plus, il y avait des écrivains publics, mais j'ai vu à Montpellier, à Nîmes, pour ne pas parler à Paris, il y a à nouveau des écrivains publics. Alors, on va trouver l'écrivain public, on ne sait plus écrire, on ne sait pas écrire, hein, parce qu'il y a certains gens qui peuvent... ne pas savoir écrire en français, parce qu'ils ne sont pas français, évidemment, comme nous ne pouvons pas écrire en chinois. Alors, on va vers l'écrivain public. Et puis, je dis, voilà, je voudrais écrire, par exemple, à ma mère, pour lui dire que je pense bien à elle, ou bien je voudrais bien écrire à tel jeune homme que je trouve sympathique, pour maintenir des contacts, tout ça, voilà. Et puis alors, selon ce qu'on lui commande, l'écrivain public, eh bien, il écrit ce qu'on lui dit d'écrire. Hein? Il écrit dans un sens, il écrit dans un autre, ça dépend. Les rhéteurs, c'était pareil. Les rhéteurs, ils étaient différents. Alors, Saint Augustin arrive à Milan, et il y avait à ce moment-là un prédicateur à Milan, qui était l'évêque de Milan, le pasteur de Milan, qui s'appelait Ambroise. Et Augustin était allé l'entendre, simplement parce qu'il voulait voir, on lui avait dit, Ambroise, orateur formidable. Et ben, alors il s'est dit, tiens, puisque je suis rhéteur, je vais peut-être apprendre à mieux parler en allant voir comment s'y prend Ambroise. Et puis Ambroise a commencé, dans sa prédication, à toucher le cœur d'Augustin. Et ça a été le commencement de sa conversion. Et dans son livre des confessions, il faut avoir lu et avoir dans sa bibliothèque les confessions d'Augustin, c'est un grand classique de la littérature. Et bien, Augustin raconte comment, au départ, il a commencé tout à coup à se voir au miroir de l'amour. Et ça a déjà commencé à le détourner de ses pensées païennes et à le tourner vers le Christ. Voilà ce que je veux dire. Il y a déjà, dans ce second usage de la loi, disons, une grâce de préparation à la grâce du salut. Une grâce de préparation. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter dans l'évangélisation, et ça c'est ce que font très peu d'évangélistes. Il faut, dans l'évangélisation, montrer la parole de Dieu comme la loi de Dieu. On va, vous avez des gens qui, tout à coup, au miroir de la loi de Dieu, vont déjà commencer à se tourner vers le Christ. Et c'est un début. Et enfin, j'arrive au troisième usage de la loi. Donc Calvin disait que ça, c'est le grand. La loi, alors, qui va être prise comme règle de vie, comme directive de vie. C'est d'ailleurs, je vous l'ai dit, le sens du mot hébreu Torah. La Torah, c'est les directives. Et au fond, à ce moment-là, Dieu nous donne dans sa joie des directives, non seulement pour notre vie personnelle, mais pour la vie sociale. Alors là, vous avez tout un. L'exposition profonde, au fond, de la sainteté à laquelle nous sommes appelés, en pensant à la sainteté de Dieu. Et c'est là que la loi révèle, au fond, Dieu lui-même. Quand je lis la loi de Dieu, j'apprends quelque chose sur Dieu. Il y a un verset de l'Écriture que vous trouvez dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, et qui est repris dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises, c'est « Soyez saints, car je suis saint, moi, le Seigneur, votre Dieu. » Ah, ça c'est bon. La loi, c'est comme ça qu'il faut dire. La loi, c'est la loi du Dieu saint, et qui veut que nous soyons saints. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi. Nous sommes seulement sauvés par Jésus-Christ et par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ nous a arrachés aux ténèbres et nous a placés dans sa lumière, quand Jésus-Christ nous a arrachés au péché et nous a plantés sur un chemin de sanctification, eh bien, la loi, à ce moment-là, devient notre code de la route. La loi devient notre règle de vie. Soyez saints, car je suis saint. Mais c'est la loi qui reflète la sainteté de Dieu. Comment est-ce que je peux savoir qu'est-ce que ça veut dire Dieu est saint? D'ailleurs, je suis éperdu dans l'adoration quand je pense à Dieu est saint, parce que ça veut dire que Dieu est tellement lui-même. Et il m'appelle à devenir tellement moi-même. Et qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est tellement lui-même, ça veut dire que Dieu est saint, et sa loi, au fond, est un reflet de sa sainteté, et elle doit être le guide pour notre sanctification. Parce que nous sommes sauvés, justifiés en Jésus-Christ, pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, et que Dieu a indiqué d'avance dans sa loi afin que nous les pratiquions, afin que nous les faisions. Voilà. Alors, vous voyez, ces trois usages de la loi, et je termine là-dessus, Dieu veut que ça... Il n'y en a qu'une. Disons que c'est le triple usage de la loi. C'est pour ça que je regrette presque de parler successivement des trois usages de la loi, parce qu'il n'y a qu'une loi de Dieu, et cette loi de Dieu a un triple usage où tout va ensemble. La loi de Dieu, pour moi, elle est à la fois garde-fou, miroir et règle. C'est un garde-fou qui m'empêche de tomber. C'est un miroir qui me montre qui je suis, et en même temps, c'est une règle qui va orienter ma vie maintenant que je connais Jésus-Christ et que je suis uni à lui par la foi. C'est une règle de vie qui va m'indiquer comment marcher et avancer et progresser dans la sanctification. Et alors là, je termine en citant le catéchisme de Père par lequel j'ai commencé. S'il ne faut pas quand même nous faire d'illusions non plus. Parce que, voilà ce que dit le catéchisme de Père, c'est presque tout à la fin. Mais ceux qui sont convertis à Dieu, peuvent-ils observer parfaitement cette loi? Non. Car même les plus saints parmi eux, même les plus saints, tant qu'ils sont en cette vie, n'ont jamais qu'un petit commencement d'obéissance. Nous commençons dès notre conversion. Nous commençons à marcher selon les commandements de Dieu. Et puis, au long de notre vie, nous essayons de progresser. Ben, au bout du compte, nous n'avons jamais ici-bas qu'un petit commencement d'obéissance. Et cependant, ils mettent beaucoup d'applications à vivre, non seulement